religieuse, aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse aujourd'hui et demain, un nouveau rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. Chaque semaine, nous vous présentons des entrevues, des témoignages de personnes consacrées, sœurs, frères, prêtres, qui s'expriment sur des thématiques liées à la vie de l'Église et des communautés religieuses canadiennes, ainsi que sur leurs engagements dans la société d'aujourd'hui et de demain. La semaine dernière, nous avons amorcé une réflexion sur le thème « Vie religieuse du présent vers l'avenir » avec trois jeunes religieuses et religieux ayant dans la trentaine ou la jeune quarantaine, trois jeunes personnes consacrées qui, par leurs actions et leurs prières, construisent la vie religieuse de demain. Afin de poursuivre cette réflexion, j'ai de nouveau à mes côtés Sœur Ginette Généreux, recluse missionnaire qui a prononcé ses vœux perpétuels en 2008, Violaine Paradis, sœur de la Congrégation de Notre-Dame depuis 7 ans, et Martin Lortie, officiellement frère de l'Ordre des moines cisterciens depuis 2009. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, la semaine dernière, nous avons eu la chance d'avoir vos témoignages, entre autres sur votre appel à la vie religieuse. Alors que nous réfléchirons la semaine prochaine sur les défis de la vie religieuse d'aujourd'hui et de demain, nous nous penchons cette semaine sur votre engagement au sein de l'Église et de la société. Et j'aimerais commencer cette discussion en citant le pape Jean-Paul II. Ce dernier soutenait que la vie consacrée n'est pas une réalité isolée et marginale, mais qu'elle est une partie intégrante de la vie de l'Église, appartenant de manière intime à sa vie, à sa sainteté et à sa mission. Il ajoutait que dans l'histoire de l'Église, la vie consacrée a connu de nombreuses formes, mais sans changement de la nature d'un choix qui s'exprime dans le radicalisme du don de soi par amour du Seigneur Jésus. J'ai le goût de vous demander comment ce don de soi se traduit dans le rôle des communautés religieuses dans l'Église d'aujourd'hui. Comment les religieuses et les religieux participent à la vie intime de l'Église, pour reprendre les mots de Jean-Paul II. Sœur Violaine?
Je peux me lancer. Je compte bien sur mes collègues, mes confrères et consœurs. Je pense que les religieuses et religieux participent à la vie de l'Église, de manière, dans ce sens qu'elle, le fait qu'on suive le Christ dans la vocation religieuse et donc d'épouser donc les trois vœux, dans le sens de prononcer nos vœux et de s'engager dans ce sens-là, ça participe de manière dans un don, comme tu viens de le citer, un don total, un don de soi total. Cela dit, c'est pas parce que les gens qui sont pas consacrés ne participent pas à la vie de l'Église. Hein. C'est ce don-là, c'est
une manière d'y participer. Oui, oui.
Témoigne du possible de suivre Jésus dans cette vocation-là. Et il y a un rayonnement, je pense, de parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Pour vraiment, je pense qu'on peut, moi j'aime l'Église et puis je sens que l'Église me le rend bien aussi, nous formons l'Église ensemble.
Oui. Donc, Frère Martin?
Mais ce qui est intéressant dans la citation de Jean-Paul II, c'est qu'il ramène finalement la vie consacrée, la vie religieuse, à l'histoire vraiment de l'Église. Donc dès les débuts, dès le 3e siècle, on a eu des formes de vie religieuse. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça a pris des formes différentes, c'est ça. Évidemment, le modèle reste toujours la vie monastique, mais je dirais que c'est un modèle de référence, mais ça n'empêche pas d'autres formes de vie religieuse. C'est parce que le modèle de vie monastique est une référence qui doit être mise sur un piédestal. Je veux dire, on voit aujourd'hui que la vie monastique a encore sa place au sein de l'Église, mais moi, ce que je trouve encore plus... ce qui m'émerveille encore le plus, c'est de voir d'autres formes de vie religieuse. Par exemple, les fraternités monastiques de Jérusalem qui ont une forme de vie mixte, c'est-à-dire avec des hommes et des femmes, évidemment avec des structures qui leur sont propres. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie consacrée amène à penser d'autres façons de la vivre aussi, pas nécessairement dans un cadre bien structuré comme celui qui est la première structure qui est la vie monastique. Alors ça, c'est vraiment un apport à l'Église. On parle aussi des communautés laïques, hein, donc des personnes qui s'engagent, je veux dire, l'Emmanuel, toutes sortes de communautés comme ça, qui favorisent aussi ou qui apportent beaucoup à l'Église.
Oui. Sœur Ginette?
Et je dirais, si la vie religieuse existe dans l'Église, c'est pour l'humanité entière, pour la société. Et ça serait intéressant juste de prendre connaissance, les religieux, les religieuses sont partout. On les voit pas nécessairement, mais c'est dans toutes les sphères de la société. Et je trouve que notre rôle, c'est d'apporter vraiment un regard d'espérance sur toutes ces réalités-là. Comme quoi, rien n'est mort, si on peut dire. Oui. Tout peut renaître avec le Christ.
Oui.
Et je trouve que c'est un de nos rôles dans la société.
Oui.
On parle souvent de la vie religieuse comme une perspective prophétique. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui annonce le royaume à venir, finalement. Et je pense que c'est un de nos rôles de le faire en Église, avec les autres aussi. Hein. Et Jean-Paul II dit que ce n'est pas une réalité isolée et marginale parce que les religieux ont à la fois besoin des missionnaires, des laïcs, des prêtres, de tout l'ensemble de l'Église. Hein, ça forme un tout. On n'est pas complètement à part là, de toute la réalité de l'Église. Ça serait, comme Sœur Ginette venait de le dire, de toute façon, quand on fait nos vœux solennels, on les fait en Église, dans une église ou soit dans une chapelle, mais peu importe, je veux dire, ça montre vraiment la dimension ecclésiale de notre genre de vie. On est au service de toute l'Église, puis même de ceux qui sont non-croyants, puis peut-être encore plus de ceux qui sont non-croyants.
Donc la vie religieuse a une dimension de solitude, mais elle n'est pas isolement.
Non, non, ce serait faire vraiment fausse route de penser qu'elle est à part ou isolée du reste de l'Église.
Et quel sens prend pour vous le terme mission? C'est quoi être missionnaire en 2016?
Ça, il faut demander à la communauté apostolique.
Ah, Sœur Violaine?
Ouais, ben, être missionnaire, c'est apporter... c'est vivre l'Évangile dans l'aujourd'hui, mais l'apporter dans ma vie d'aujourd'hui, mais l'apporter aux autres sans nécessairement... cela dit, il y a des missionnaires. La petite Thérèse est la patronne des missions. Hein? Sainte Thérèse de Lisieux, dans son cloître, était la patronne des missions. Donc, oui, les communautés apostoliques, on se déplace vers d'autres pays ou même au sein du Québec. Mais, donc, être missionnaire, c'est être investi de cette mission-là de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ par toute notre vie. Et puis, c'est aller vers... Bon, je fais partie d'une spiritualité de la visitation, hein, de la visitation Pentecôte à la congrégation Notre-Dame. Donc, c'est vraiment aller vers l'autre et être avec l'autre. Pour moi, c'est intrinsèquement dans la dimension missionnaire de ma vie en Église et en société.
Oui. Et Sœur Ginette?
Je compléterais le volet de Violaine, parce qu'en étant de vie contemplative et dans un monastère, nous, c'est pas de sortir, mais plutôt d'être là, dans un lieu stable. Et dans nos deux monastères, avec Martin aussi, on a une hôtellerie monastique où les gens peuvent venir se ressourcer, se refaire et être ce lieu... où les gens savent qu'ils peuvent retourner et retourner à une source auquel ils peuvent s'abreuver. Et il y a beaucoup de sœurs, de frères de vie apostolique qui viennent dans nos monastères justement pour se ressourcer. Et ça, c'est un bel échange. C'est une communion, on fait un corps, on s'entraide. Ça fait du bien.
Ben, ça fait du bien, puis en plus, la vie religieuse, sa mission, c'est de pointer vers le Christ. Elle n'est jamais une fin en soi. C'est une impasse, sinon. C'est toujours de montrer le chemin pour y arriver au Christ.
Oui. Alors, on le disait en introduction, la vie religieuse, c'est un don de soi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans un monde qui est pas mal moins dans le don de soi que dans le tout à soi, de s'y dissoudre dans ce monde? Bref, de se donner entièrement jusqu'à l'épuisement de soi et de ses ressources.
Moi, je suis pas prêt à dire que le monde... Il y a beaucoup de générosité dans le monde. Hein. On voit des jeunes passer. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont très, très, très généreux, en fait. Ils se donnent peut-être d'une différente façon, pas nécessairement en fonction d'un idéal ou d'une transcendance. Ça, je suis d'accord, mais il me semble que le don de soi fait partie... On dirait que c'est une dimension anthropologique de notre humanité, de se donner. Mm-hmm. Tout le monde sait que quand on se donne, ça fait du bien, puis on est comme libéré, je veux dire. Alors, je suis pas prêt à dire qu'il y a pas de don de soi. C'est sûr que dans la vie religieuse, on le fait peut-être autrement, en fonction d'un sens qu'on lui donne, d'une signification. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'on peut aussi arriver à un moment donné à s'épuiser, même dans un monastère où tout le monde pense que c'est la grande contemplation. Mmh. Oui, c'est vrai, mais on a aussi quand même beaucoup d'occupations. Donc, oui. il faut savoir gérer son temps puis prendre des moments aussi pour nous.
Oui, sur Violaine?
Ben, c'est justement, quand tu dis gérer son temps, comme tu dis Martin, c'est ça, l'équilibre, c'est de trouver un équilibre, parce que oui, c'est un risque. Il y a un risque de s'épuiser, mais si on vit notre vie, hein? Si on rythme notre vie de manière équilibrée, alors là, c'est plus. Mais il y a un danger de sortir de soi. Mais c'est ça.
S'oublier, c'est pas de, à un certain
c'est
point.
C'est ça. C'est le don de soi ne veut pas dire nécessairement sortie de soi, parce qu'au contraire, c'est là qu'on peut s'épuiser. Mm-hmm. Si on se donne en étant tout à fait présent, en tout cas, c'est ma manière de voir, tout à fait présent à soi, parce qu'on veut donner le meilleur aux autres, bien là, à ce moment-là, l'épuisement ne vient pas, mais il s'agit d'un équilibre.
Ouais. C'est ça. Et ça demande une certaine humilité de reconnaître que, dans le fond, on se donne dans ce que l'on est,
ouais,
et non pas dans le faire. Ouais. Et avec cette cohérence interne qu'on cherche toujours à améliorer, si on peut dire. Alors, à ce moment-là, s'il y a une cohérence intérieure, il n'y a pas d'épuisement, là.
Mm-hmm. Ah oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, évangéliser? Et surtout, comment est-ce qu'on s'y prend? Là, j'imagine qu'il y a une différence entre évangéliser si on est dans une communauté apostolique et si on est dans une communauté contemplative. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous, évangéliser, et surtout le comment? Martin?
Je sais pas, en t'entendant, je pense à une phrase de Saint François qui disait « C'est bien de prêcher l'Évangile par des mots, mais il s'agit aussi de le prêcher par ce qu'on est. » Donc, mm-hmm, c'est pas nécessairement par des paroles, mais c'est vraiment d'essayer de le vivre, et à mon avis, c'est ce qui est le plus, pour chaque chrétien, c'est ce qui est le plus difficile, de vivre l'Évangile. C'est comme ça qu'on l'évangélise. T'sais, moi, je me rappelle d'un témoignage d'une étudiante qui était avec moi, puis elle côtoyait un chrétien, mais elle me disait toujours, mais cette personne-là, tu sais, elle m'a jamais parlé de Dieu, tout ça, mais je sens qu'il y a quelque chose en elle, puis elle savait qu'il était croyant, puis pour elle, c'était une manière dont la personne qu'elle côtoyait l'évangélisait, tu sais, mais par ses gestes, par son attitude, par les valeurs de l'Évangile, tout simplement. Mm-hmm. Donc, à mon avis, c'est là que ça commence. Mais après, on peut évidemment élaborer sur le sujet, savoir quoi évangéliser.
Mais
disons, à la base, ce serait plutôt d'essayer de vivre l'Évangile, puis pouvoir vraiment avoir cette charité, cette compassion envers nos sœurs et nos frères en humanité. Là.
La gratuité aussi, j'imagine.
Oui,
ça doit
une forme de gratuité, tout à fait.
Ouais. Le pape insiste d'ailleurs beaucoup sur l'évangélisation par la présence, la manière d'être, d'agir. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une source de stress possible? Est-ce que vous avez l'impression des fois qu'en devant être vous-même des figures inspirantes de la vie chrétienne, porteurs d'espoir, est-ce que vous avez l'impression des fois que vous n'avez pas le droit à l'erreur, en quelque sorte? Si vous faites une erreur, ben là, c'est comme si la vie religieuse perd en crédibilité, là.
Il faut lire la lettre du pape jusqu'au bout. Mmh. Quand il envoie une lettre aux consacrés, il rappelle que les consacrés sont aussi des femmes et des hommes qui ont le droit à l'erreur, au manquement, ce qu'on appelle en théologie au péché. Et ça, j'ai été vraiment très heureux de l'entendre. Non pas parce qu'il faut absolument tomber dans cette erreur-là, mais juste pour ramener les consacrés à une dimension plus humaine, si tu veux.
Exactement. Ouais.
Et ça, je pense que c'est important. Puis des fois, j'avoue qu'on met les religieux, les religieuses sur un piédestal, ou les prêtres, parce que, bon, oui, on est des référents, on essaie vraiment de vivre l'Évangile, mais en même temps, il y a aussi toute cette faiblesse humaine qui est là. Et j'invente rien, c'est Saint Paul qui dit que c'est dans notre faiblesse que la force de Dieu s'incarne et qu'elle prend sa plénitude.
Alors, c'est comme je suis faible que je suis fort.
Donc, je veux dire, il y a tout ça aussi, mais quand j'ai lu ça de la part du pape François, je me suis dit, bon, enfin, quelqu'un qui ramène un peu, de façon plus réaliste, si tu veux, la vie consacrée.
Oui,
et c'est dans la mesure où tranquillement on accepte cette part de faiblesse en nous, qu'on devient réellement humain et là qu'on devient parlant pour les autres. Parce que là, les autres peuvent se reconnaître et dire « Ah ben, comment tu fais pour t'en sortir finalement?
Oui. »
Et là, ça devient un lieu de partage, de dialogue. Parce que quand on choisit la vie religieuse, on ne choisit pas d'être une statue avec une auréole. Là. C'est pas du tout ça. Là. Au contraire, on choisit le Christ pour apprendre à aimer comme lui, mais ça s'apprend.
Oui, oui. Oh, oui. C'est un cheminement.
Oui, puis on disait aussi, bon, attention que de nous mettre sur un piédestal, mais il y a le danger aussi pour un religieux, pour nous-mêmes, de nous mettre sur un piédestal par rapport aux autres. Et ce que Ginette vient de dire, c'est
l'humilité.
L'humilité, puis ce dont on a parlé tout à l'heure dans le c'est ça, l'importance de cultiver l'humilité, puis la cohérence de vie en accueillant nos fragilités, comme nos forces, hein, mais aussi nos oui, on est humain. Et ça fait du bien de
c'est
voir.
Salutaire.
C'est salutaire.
C'est salutaire.
De même.
Oui. Parce que... Il faut bien quelque chose.
Ah, oui, c'est vrai.
On a des limites.
Je veux dire.
Ouais. Ah, oui. On a des limites, puis elles sont là pour nous aider à croître. J'y crois profondément.
Et on devient davantage vrai.
Saint-Bernard aimait bien les trois C, c'est-à-dire componction, c'est-à-dire de voir notre misère. OK, componction, compassion. C'est-à-dire plus on va voir notre propre misère, plus on va être enclin à compatisser. Puis c'est là qu'on peut contempler vraiment l'amour de Dieu en nous. Donc ces trois C-là, je pense que c'est toujours important de se les rappeler. Mais à la base, il y a aussi le premier qui est c'est un terme un peu savant, mais componction pour dire finalement de voir notre fragilité. Puis après, moi je suis prêtre, je reçois des confessions, tout ça. Des fois je me dis, mais ces personnes-là sont aussi fragiles que moi. Moi je n'ai pas à les juger, tout simplement. Ouais. J'ai à les accueillir comme Dieu les accueille, tu sais. Alors c'est ça le plus important. Si on se ramène pas à ce que Sœur Ginette disait, l'humilité finalement devant notre propre condition, je pense qu'on passe à côté vraiment de la vie religieuse.
Dans un chant, notamment coécrit par Sœur Violaine, un chant qui a été écrit pour le premier rassemblement des Benjamins, les Benjamins étant ici les religieux de moins de 45 ans ou comptant moins de 15 ans de vœux, vous disiez être dans ce chant appelé à la fidélité pour réveiller le monde. Moi, j'avoue, quand j'ai lu le texte, je me disais réveiller le monde. Moi, je trouvais que le monde était déjà pas mal réveillé au sens hyperactif.
Oui.
Mais bon, je comprends que vous y voyez, là-dedans, vous présentez le fait que les religieux et les religieuses peuvent contribuer à réveiller ce monde. Mais comment?
Oh! Comment?
Comment réveiller? Oui, mais c'est ça.
Mais le d'abord, qu'est-ce qu'on entendait par réveiller? C'est réveiller le. C'est pas au sens de. Parce que je suis bien d'accord que la société est hyperactive. Mais c'est de réveiller le don de Dieu qui est en chacun et en chacune. La lumière de cet éveil, cette lumière qui apporte la foi. Pour réveiller le monde, pour donner le goût de vivre, le goût de prendre le temps, de cultiver le silence, de le nourrir et de l'habiter.
Donc c'est évangéliser dans le fond.
Ben ça rejoint qu'on disait sur l'évangélisation. Donc
en fait, c'est les paroles du pape François.
Ouais.
On a repris un peu son texte pour le mettre en musique, mais je pense que c'est ça, c'est plutôt l'éveil à une transcendance que le monde a un petit peu perdu. Ouais, on est un peu à l'horizontale parfois, même si les valeurs de solidarité, d'amour, d'amitié, tout ça, transcendent à quelque part notre condition, forcément. Je pense que ça nous élève, mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste... le christianisme, c'est pas juste un humanisme. Il y a aussi une partie divine aussi qui nous divinise, c'est ça, puis qu'on tenait à mettre en valeur. Là.
Et quelle est la place de l'art dans votre cheminement, mais aussi dans votre implication dans l'Église et dans la société? Juste pour présenter un peu aux auditeurs et auditrices, mais Martin, la musique a fait partie de votre jeunesse, elle fait encore partie de votre vie. Ginette, l'iconographie fait partie de votre vie depuis quelques années. Sœur Violaine, vous êtes comédienne de formation. Donc, quel est le rôle de l'art dans la transmission de la foi, mais aussi dans votre propre vie? De foi. Donc, Sœur Violaine?
Oui, je peux commencer. pour moi, c'est déterminant, la question de l'art et de la foi, puisque justement, j'aime mon métier de comédienne, mais à un moment donné, ma passion pour Dieu était très forte, et puis ma passion pour le théâtre. Donc, je me dis, pourquoi pas, et c'est ce que j'ai fait avec des jeunes en pastoral universitaire, en travaillant au centre étudiant Benoît Lacroix pendant quelques années, de monter des pièces où les valeurs de l'Évangile, je pouvais les transmettre, ou les en tout cas, du moins les donner à voir à travers le témoignage de ma vie aussi et les échanges qu'on a eus. Mais donc, je pense que c'est pas incompatible. Au contraire, moi, c'est un moyen pour mieux parler, mieux dire ma foi.
Oui. Sœur Ginette?
L'iconographie m'a appris m'a appris la beauté. Et de prendre le temps de s'asseoir devant une icône pour la contempler, pour contempler le mystère qui est représenté par l'image et les couleurs, les mouvements qui sont dans l'icône, c'est vraiment rejoindre Dieu dans sa beauté, dans quelque chose qui dit qui il est. Mmh. Et ça va très bien avec notre vie de prière et de contemplation monastique.
Oui, oui, j'imagine. Martin?
Ben, on pourrait faire toute une émission sur la musique, parce que moi, je suis un grand...
Aller chercher la guitare.
C'est ça. Je suis musicien depuis que j'ai 14 ans. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de musique. J'en fais encore au monastère. Des fois, on pense tout abandonner, tout lâcher, parce qu'on entre dans une vie religieuse. Mais finalement, ben, j'accompagne les psaumes à la cithare. Je veux dire, je suis chante. Donc, la musique fait partie intégrante de ma vie. Nietzsche disait que la vie sans la musique serait une erreur, et je suis tout à fait d'accord.
Oui,
parce
moi
que
aussi.
La musique nous élève. Puis je reprends les termes de Ginette, là. La beauté.
Oui.
La beauté, vraiment, il y a une façon, il y a une transcendance, même quand on écoute du Pink Floyd, je suis désolé, oui. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse, qui va au-delà de nous-mêmes, et ça me fait rejoindre vraiment Dieu, alors
oui.
J'arrête là, parce que vraiment, la musique, c'est une grande passion pour moi, mais c'est sûr que c'est pas en contradiction avec la recherche de Dieu. Là.
Oui, oui. Et quelle place tient l'œcuménisme, mais aussi le dialogue interreligieux dans vos implications en Église, mais aussi, donc, sociales? Comment les religieuses et les religieux s'implique dans les dialogues contemporains? Martin?
Ben, je peux commencer parce que nous, au monastère, on a installé une espèce de tradition, si vous voulez, depuis 4 ans. Donc, on prie d'abord pour la semaine œcuménique, donc, qui est au mois de janvier avec la conversion de Saint-Paul, avec des communautés protestantes. Donc, ils viennent, on partage les vêpres, on partage un repas. Donc, on communie beaucoup avec les communautés de notre diocèse. Mais depuis 5 ans, on partage aussi avec les soufis. Donc, c'est une branche, si vous voulez, mystique de l'islam. Donc, ils viennent à la fois de France, d'Algérie, qui viennent partager une journée complète avec nous. Et on prend les textes du Coran et de l'Évangile. Et puis, on en discute entre nous, mais vraiment d'un point de vue spirituel, non pas d'un point de vue doctrinal, parce que ça mène strictement à rien, on est d'accord, mais je veux dire vraiment un œcuménisme là, de partage et de prière, et je pense que ça nous apporte beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est important, parce que c'est une question qui est au cœur, il me semble, non seulement de la théologie, mais de la spiritualité d'aujourd'hui, et d'un point de vue géopolitique aussi.
Ah,
alors, c'est vraiment important de pouvoir prendre ces moments-là pour mieux se connaître et puis partager nos traditions respectives. On a toujours à apprendre des autres, ça, c'est sûr.
Sœur Ginette?
Et c'est beau, parce que aussi apprendre à accueillir l'autre, peu importe ses origines, ou d'où il vient, ou quelle religion il pratique, l'autre comme un frère, comme une sœur. Et je m'aperçois, les dernières années, au monastère, à l'hôtellerie, il y a de plus en plus de pasteurs anglicans qui viennent. Il y a une dame bouddhiste qui est venue passer un mois chez nous. Des groupes baptistes qui viennent des fins de semaine. Il y a vraiment un mouvement, les uns vers les autres, au-delà de ce qui nous sépare.
Oui.
C'est vraiment un...
Oui. Sœur Violaine?
Rendre compte d'un vivre ensemble possible. Moi, j'en ai fait un peu l'expérience au centre étudiant. Il avait été mis sur pied par ma consœur Marie de Lovinfos, une CND aussi. Le dialogue islamo-chrétien. Donc,
Mariam.
Le groupe Mariam que Sabrina coordonne, dans lequel elle fait partie, mais Marie avait mis aussi sur pied le dialogue islamo-chrétien. Et donc, c'est possible parce que, dans le fond, comment témoigner d'un vivre ensemble, que c'est possible, puis aussi au nom d'un Dieu. D'un Dieu unique, le même Dieu qu'on prie. Comment on apprend tout en se respectant dans nos différences, mais comment voir la différence comme un don aussi au service de
du monde. On approfondit notre propre tradition.
Exactement.
Aussi. Mais il faut être fort
dans
ces échanges-là. Il faut être fort, sinon, on se laisse un peu emporter, puis finalement, on n'apprend absolument rien d'autre parce qu'on n'est pas ouvert.
Oui.
je veux dire.
Oui, creuser sa propre tradition pour mieux l'expliquer.
Ah, tout
mieux
à fait, des textes du Coran qui m'ont vraiment interpellé, puis je me disais, ben, regardons cette façon-là de voir, par exemple, l'appel d'Abraham ou quoi que ce soit.
Oui.
Même la Vierge qui a une place importante dans le Coran.
Oui, et on peut penser que la contribution des personnes consacrées à l'Église et à la société d'aujourd'hui se fait aussi à travers un engagement auprès des exclus. Et là, je me demandais comment la vie religieuse contemplative peut rimer avec implication sociale. Est-ce que ça peut cohabiter, en quelque sorte? Sœur Ginette?
Je me sens très impliquée socialement. Dans le sens où, à chaque matin, j'ouvre le journal. Là, je vais faire de la pub pour Le Devoir.
C'est correct.
J'ouvre Le Devoir, que je trouve qu'il y a des articles approfondis et auxquels je peux suivre une situation qui se développe. La Syrie, par exemple, ce qui se passe en Corée du Nord. Plein de situations où je n'ai pas besoin de tout savoir, mais j'ai juste besoin de savoir un peu ce qui se passe, l'essentiel, et que je porte dans ma prière. Et c'est, toutes ces situations-là me nourrit, nous nourrit, et rentre dans l'aspect missionnaire de notre vie. Alors,
oui. Martin?
Ben, s'il n'y avait pas une dimension sociale à ma vie, je ne serais pas ici d'abord.
C'est vrai.
Parce que je suis quand même un consacré, donc je suis cloîtré, etc. Mais je pense que ça fait partie d'un service d'église aussi à la société de pouvoir témoigner de ce que je suis dans la vie religieuse. Mais il y a quand même plusieurs volets aussi de notre vie monastique. On a une école d'été, par exemple, on accueille beaucoup de groupes. On fait des découvertes pour les produits forestiers. Il y a toute une dimension sociale, pédagogique à travers le monastère qui serait long à énumérer, mais quand même qui contribue aussi. Mais on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière, je veux dire... L'Église n'est pas déconnectée ou détachée, la vie religieuse de l'Église et de la société en général.
Mm-hmm.
Ça, c'est hyper important de le redire.
Oui, oui. Sœur Violaine, Sœur Ginette, Frère Martin, merci beaucoup pour cette présentation des nombreux lieux d'engagement, tant en Église qu'en société, des religieuses et religieux d'aujourd'hui. D'ailleurs, on aurait pu faire plusieurs épisodes sur ce thème. Je rappelle que Sœur Ginette Généreux est recluse missionnaire, que Sœur Violaine Paradis fait partie de la congrégation de Notre-Dame et que Martin Lortie est frère de l'Ordre des Moines cistercien. Je m'appelle Mathieu Lavigne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de ce second épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne. Un amical merci à Anne-Louis Lintz à la régie. La semaine prochaine, on retrouve Violaine, Ginette et Martin pour une conversation cette fois sur l'avenir de la vie religieuse, sur ses défis et son espérance. D'ici là, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.